Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'heure est venue sur Europe 1 de rouvrir avec Franck Ferrand un grand dossier de notre histoire. Aujourd'hui, celui du procès de Riom. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les procès politiques sont ceux qui, avec le recul, nous impressionnent le plus car leurs motivations sont non seulement partiales mais relatives et se diluent au fil du temps. Nous allons évoquer aujourd'hui le procès des prétendus responsables de la défaite de 1940. Ce procès de Riom intenté par le régime de Vichy à Léon Blum, Édouard Daladier et quelques autres.
Et pour nous aider à y voir plus clair dans ce ténébreux dossier de Riom, vous avez invité de grands spécialistes.
Oui, l'historien de cette période, Jean-Pierre Azéma, qu'on ne présente plus, et puis Julia Bracher, qui a travaillé à l'édition Omnibus sur ce procès de Riom et qui co-réalise en ce moment même un documentaire sur le sujet. Autant dire que nous ne pouvions mieux nous entourer.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Juin 1940, la France s'effondre face aux armées d'invasion allemande. Le régime qui, depuis 70 ans, avait présidé à la prospérité, au rayonnement de la France, à son expansion coloniale, ce régime se désagrège et tombe en poussière. Le territoire est partagé entre une zone libre et une zone occupée, même si au terme de la convention d'armistice, l'ensemble du territoire se trouve sous l'autorité de l'État français. L'État français, autant dire le vieux maréchal Pétain. Car dès le 20 juillet de cette funeste année 1940, une écrasante majorité de parlementaires de la Troisième République a voté les pleins pouvoirs à l'ancien héros de Verdun. Pétain s'empresse, c'est un de ses premiers discours, de dénoncer la démoralisation et la désorganisation qui, je le cite, comme une gangrène avait envahi l'État en y introduisant la paresse et l'incompétence, parfois même le sabotage systématique aux fins de désordre social ou de révolution internationale. On voit bien la phraséologie utilisée par le maréchal Pétain, la presse de Vichy et, disons-le, une forte proportion de l'opinion publique attendent que des coupables soient désignés et que, une fois désignés, ces coupables de l'écrasante défaite soient châtiés. À Vichy, où il s'est installé, vous avez bien compris que le maréchal Pétain cumule entre ses mains les pouvoirs exécutifs et législatifs. Eh bien, à travers cette nouvelle affaire, il va également mettre un pied dans le judiciaire dès le 30 juillet 40. C'est l'acte constitutionnel numéro 5, est instituée une juridiction spéciale, la Cour suprême de justice, dont la mission sera de juger, je cite, « les anciens ministres et leurs subordonnés immédiats coupables d'avoir trahi les devoirs de leur charge ». Disons les choses clairement, un tel désastre exige la désignation de bouc émissaire et ce nouveau tribunal aux ordres du maréchal va se faire un plaisir de les juger. Je précise tout de suite qu'aucune possibilité de pourvoi n'a été retenue dans la procédure judiciaire ou pseudo-judiciaire qui se met en place. La fameuse Cour suprême est convoquée très vite, le 8 août, pas très loin de Vichy, en direction de Clermont-Ferrand, dans l'ancienne capitale du duché d'Auvergne, à Riom, R-I-O-M, Riom, la sous-préfecture, enfin l'une des sous-préfectures du Puy-de-Dôme. Les termes de l'acte numéro 5 sont volontairement flous et ils sont sans fondement juridique clair. Autant dire que les juges spéciaux ont toute latitude pour s'en prendre à ceux que les dirigeants de l'heure ont en horreur, et ce depuis des années, à commencer par les anciens leaders de gauche, ceux du Front populaire. D'ailleurs, c'est bien simple, les investigations de la Cour ne remonteront pas au-delà de mars 1936. Mars 1936, c'est l'époque de la remilitarisation de la Rhénanie, mais c'est aussi une date butoir qui permet de viser directement le Front populaire qui a pris naissance précisément début 1936. Les noms des accusés s'imposent d'évidence, ce sont les têtes de Turc, les cibles préférées des pamphlets nationalistes et de la presse ligueuse d'avant-guerre, ce sont les bêtes noires du régime de Vichy, Édouard Daladier bien sûr, le président du Conseil radical, qui avait signé les accords de Munich, également le général Gamelin, bien sûr, qui commandait les armées françaises au moment du désastre et qui avait dû être remplacé d'urgence par le général Weygand, et puis Léon Blum, forcément, socialiste, président président du Conseil du Front Populaire et de surcroît juif, le vieil ennemi juré de Maurras et de l'Action française. On va y ajouter des figures moins attendues comme Paul Reynaud, ministre des Finances de Daladier et qui avait été le prédécesseur direct du maréchal. Et il aura combattu de son mieux l'idée d'armistice au moment de l'invasion allemande. Et puis Georges Mandel, ancien collaborateur de Clémenceau, qui avait proposé à l'aube de la guerre une alliance avec les soviétiques. D'autres personnalités, parmi lesquelles beaucoup de juifs, de socialistes, de francs-maçons, des personnalités moins importantes, vont se retrouver avec ces cinq personnalités-là internées dès septembre 1940 au château fort de Chazeron, à Châtel-Guyon, donc tout près de Rion. On les interroge, on enquête, on dresse les actes d'accusation. Pierre Cotte, l'ancien ministre de l'air, qui avait été jusqu'à se présenter aux législatives de 31 en tant que communiste. Pierre Cotte figurait en bonne place sur la liste, seulement il a eu la prudence de ne pas rester en France et au moment des arrestations, il se trouve déjà réfugié aux États-Unis. Comme pour compenser cette absence, la Cour inculpe Guy Lachambre, ministre de l'air de 38 à 40. Guy Lachambre auquel, en vérité, il n'y a pas grand-chose, semble-t-il, à reprocher. À supposer que des reproches politiques doivent jamais déboucher sur un procès, ce qui reste évidemment, et c'est tout l'enjeu de cette affaire, ce qui reste le scandale foncier du dossier Dorion.
Un extrait sur Europe 1 de la Rhapsodie française de Florent Schmitt-Franck.
Alors c'est ici, Julia, qu'il faut que je vous parle des juges qui composent cette fameuse juridiction ad hoc, là, cette Cour suprême. La vérité oblige à dire que ces juges ne sont pas les pantins, les fantoches qu'on serait en droit d'imaginer. Il y a parmi eux non seulement beaucoup d'anciens combattants de grande valeur, mais des juristes de premier plan. Le président Cahous n'est autre que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le vice-président Lagarde est conseiller lui-même à la Cour de cassation. Pour des raisons de santé, il sera remplacé par le président Meffaut. Alors, lui présidait avant la guerre une chambre à la Cour d'appel de Paris. Voyez, nous sommes en présence de magistrats importants. Pour le reste, on trouve dans cette cour d'autres éminents magistrats, des militaires de haut rang. L'accusation est portée par le procureur général Cassagno et deux avocats généraux de renom, le très précis et redoutable Bruzin, et puis un homme très proche de Pétain lui-même, Gabold. Il faut noter que toute cette histoire de procès est une initiative franco-française. On va y revenir tout à l'heure, mais les autorités d'occupation au départ n'ont rien demandé de tel. C'est seulement une fois que le processus a été enclenché que les Allemands ont fait pression sur Vichy pour que la responsabilité de la déclaration de guerre soit clairement imputée à la France dans les débats de ce procès et pour que soient inculpées deux personnalités qui au départ avaient été épargnées parce que c'était des personnalités plutôt de droite, Paul Reynaud donc et Georges Mandel. Les Allemands leur reprochaient leur opposition farouche à l'armistice qui venait d'être signé. Alors très vite, dès les premiers interrogatoires, il apparaît clairement que l'inculpé le plus difficile à juger, celui qui pose systématiquement les questions embarrassantes et qui place très vite ses juges devant de graves contradictions, c'est évidemment Léon Blum. Lui a tout de suite pointé du doigt le caractère à la fois politique et rétroactif d'un procès qui, selon les règles élémentaires du droit, ne devrait donc pas avoir lieu, ne devrait pas avoir lieu d'être. Du reste, dès qu'on creuse un peu, on tombe sur toutes sortes d'apories. Le principal accusé, c'est bien sûr Daladier qui a dirigé la défense nationale et donc la politique d'armement sans discontinuer de juin 36 à mars 40, mais qui, à l'époque, pourrait ignorer l'incroyable popularité de Daladier deux ou trois ans plus tôt. Vous savez que lorsque Daladier était rentré de Munich avec cet accord de paix bien précaire, il avait été accueilli par une foule enthousiaste. Et lui-même était d'ailleurs assez étonné de cet accueil. Jugé Gamelin, tous les Français de l'époque, ou presque, trouvent ça légitime. C'est l'homme qui a finalement conduit, pense-t-on, l'armée française à la défaite. Mais en vérité, comme comment juger un chef d'état-major sans faire le procès de cet état-major lui-même, dont plusieurs membres ont bien entendu suivi le maréchal Pétain. Et du reste, Pétain lui-même, après tout, a été ministre de la guerre en 1934 et en 1935. Vous voyez les limites du procès de Lorion et l'une des raisons pour lesquelles on commence les investigations à partir du début de l'année 1936. Tout ça devient assez vite inextricable, d'où l'embarras croissant et, disons-le, le peu de zèle manifesté par la cour de Rion, un embarras qui, à Vichy, agace beaucoup le maréchal et son entourage du reste. Le 27 janvier 1941, Pétain fait un pas de plus sur la voie de l'abus de pouvoir. L'acte constitutionnel numéro 7 lui attribue rétrospectivement, là on croit rêver, on va quand même assez loin, c'est pas un beau rêve du reste, cet acte constitutionnel numéro 7 lui attribue le pouvoir de juger personnellement les hauts responsables qui, je cite, « auraient trahi les devoirs de leur charge ». Toujours cette expression complètement vague et derrière laquelle il n'est pas possible de caler des notions juridiques. Et pour ce faire, un conseil de justice politique est créé, sur mesure, il est aux ordres naturellement, et devra transmettre des propositions de verdict avant octobre 41. Et c'est sur l'avis complètement arbitraire, faut-il le préciser, de ce charmant conseil de justice, que le 16 octobre 1941, donc, le maréchal pourra annoncer à la radio que messieurs Blum, Daladier et Gamelin sont condamnés sans autre procès à la détention perpétuelle au fort du Portalet dans les Pyrénées. Il s'agit d'une incroyable forteresse de montagne creusée en partie dans le roc et qui date de Louis-Philippe, un véritable mouroir en vérité. Les autres personnalités restent simplement internées en Auvergne. Autant dire que les Allemands gardent Reynaud et Mandel sous la main au cas où leur viendrait l'envie de les déporter. On vient donc d'assister à une parodie de justice quasiment sans précédent dans l'histoire de France. Vous vous dites peut-être que dès lors la Cour suprême de Rion est dessaisie. Eh bien pas du tout. On lui demande au contraire de poursuivre sa procédure en l'accélérant simplement. D'autres régimes l'avaient prouvé et le prouveront par la suite. Passer les bornes de l'absurde, tout devient malheureusement possible. Les interrogatoires, les débats du procès de Rion, la façon dont il s'est déroulé, les journalistes et leur rôle dans cette affaire, et puis bien entendu les conclusions de tout cela, c'est ce que nous allons voir en compagnie de nos deux invités. Julia Bracher, donc, qui a contribué beaucoup à l'édition omnibus de tout ce procès de Rion, et puis Jean-Pierre Azéma, spécialiste de la résistance, de l'histoire de Vichy et de la collaboration, et qui enseigne bien sûr à Sciences Po Paris.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Julia Bracher, qui est historienne de formation, éditrice, elle présente Rion 1942, le procès, réquisitoire et interrogatoire, journal de captivité de Daladier, témoignage de Léon Blum aux éditions Omnibus, et Jean-Pierre Azéma, qui est spécialiste de la résistance, vous l'avez dit, son dernier livre, L'occupation expliquée, à mon petit-fils au seuil.
Bonjour à tous les deux, merci d'être ici. Dans cette occupation expliquée à mon petit-fils, vous ne vous attardez pas sur Rion, Jean-Pierre Azéma. Vous parlez plutôt des grandes affaires, sans entrer dans le détail de ces questions politiques, politico-politiques.
Oui, alors je dois bien avouer que j'aurais dû en parler un petit peu plus, c'est vrai. Je me suis reporté à mon petit ouvrage, donc destiné à un adolescent.
Oui,
quand même,
tout à fait. Hein. Oui. Bon, j'aime bien, moi, cette forme très pédagogique d'explication de l'histoire.
Mais vous savez, il y a une contrainte dans ce bouquin de cette collection du Seuil, c'est le nombre de signes. On ne peut pas dépasser 100 000 signes. Voilà.
Mais ce qui veut donc dire que vous êtes allé à l'essentiel, bien entendu, oui. Et que est-ce que l'on peut dire que Rion est un... Alors attention, je pose vraiment la question. Est un épiphénomène de la collaboration et de la façon dont le régime de Vichy a essayé de régler la question de cette défaite de 40.
Oui, ça, essayer de régler la défaite de 40, la réponse est positive. Ensuite, dans l'histoire de ce qu'on appelle la collaboration d'État, c'est-à-dire d'un État vichysois avec un autre État qui est le Reich, c'est une étape, mais qui n'est pas un épiphénomène. D'abord parce que ça va provoquer le remplacement de l'un des vice-présidents du Conseil qui s'appelle Darlan, l'amiral, par Laval qui va arriver. Donc ce n'est pas négligeable. et puis aussi de l'autre côté parce que ça va réveiller un peu la France, c'est-à-dire que les débats vont pouvoir passer à la BBC, enfin donc à Radio Londres, à la radio donc de la France libre, et puis d'autre part il va y avoir une certaine, enfin d'une manière ou d'une autre, certaine propagande, et on va se dire qu'il se passe quand même quelque chose, que Léon Blum s'est très bien défendu, que Daladier s'est très bien défendu, et que c'est une incitation à ne pas s'accommoder de la présence de l'occupant. À cet égard-là, le procès de Rion est quelque chose d'important.
Et même de fondateur, finalement, oui.
Peut-être pas, là, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, si vous voulez, c'est... Vous voyez, à l'époque, c'était quand même un peu du bricolage héroïque. Les résistants avaient des difficultés à se faire entendre. La résistance n'apparaissait pas comme une donne politique, comme quelque chose qui pouvait compenser le régime de Vichy. Il n'y avait pas de crédibilité politique suffisante pour les mouvements de résistance. Et puis voilà. Et puis voilà que Blum s'est réveillé, que Blum a dit « puisque la République est attaquée, j'en suis le défenseur ». Daladier a littéralement catapulté tous les arguments de la défense, en tous les cas des généraux.
Alors nous allons venir, oui, là,
oui
à la façon dont se
donc,
sont
les
défendus
gens se sont dit,
les accusés.
Tiens, il se passe quelque chose. Et par exemple, pour ce qui va devenir le Parti Socialiste... Le Parti Socialiste, donc, résistant, qui va succéder à la vieille SFIO... La plaidoirie de Blum, ce procès de Rion, c'est vraiment une étape décisive. Donc, j'ai eu un peu tort de ne pas en parler suffisamment. Voilà.
Bon tacte. Alors, il y a en revanche un ouvrage qui vient de paraître chez Omnibus, qui est un document incroyablement exhaustif et passionnant pour ceux qui s'intéressent à ce procès. Ça s'appelle Rion 42, le procès, et il y a là-dedans tout, c'est-à-dire notamment, on suit jour après jour les interrogatoires, les débats, c'est extrêmement complet. Alors vous avez présenté cette édition Omnibus, Julia Bracher. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le procès de Rion nous permet de mieux comprendre cette période, donc du tout début de l'occupation en fait?
Ah ben tout à fait, il est absolument significatif. C'est un peu la créature de Vichy, comme vous le stipuliez.
Alors juste un mot, tiens, puisque vous employez carrément la synecdoque. J'ai reçu ce matin un message d'un de nos auditeurs, Olivier de Vichy, qui dit « S'il vous plaît, je vous en conjure, je vois que vous allez parler du procès de Rion. Est-ce que vous pourriez éviter de dire le régime de Vichy, parler de l'État français, du régime pétainiste, mais ne dites pas Vichy parce que nous qui habitons là-bas, ça nous ennuie. » Alors incontestablement, c'est l'histoire hein, néanmoins. Donc ça n'enlève rien à la beauté et à l'agrément de la ville charmante de Vichy, mais enfin c'était bien le régime de Vichy. Je ferme la parenthèse, pardon.
Non, je vous en prie. Donc oui, c'est la créature de Vichy, en ce sens que les Allemands n'ont rien à voir avec l'inculpation de Léon Blum et de Daladier, que ça a été voulu par le maréchal de France, Philippe Pétain, pour asseoir son nouveau régime, le légitimer et condamner évidemment le Front Populaire.
C'est-à-dire que cette révolution nationale qui était la nouvelle idéologie qui s'installait dans ce nouveau régime, cette révolution nationale avait besoin de désigner des espèces de repoussoirs.
De boucs émissaires. C'est un peu, je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, monsieur Azéma, une espèce de guerre civile larvée. Finalement, on a tenté de diviser les Français. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même si on en parle très peu, il y a à peu près et plus de 150 journalistes qui sont présents au procès. Donc l'événement a un impact considérable et international, puisqu'il y a des journalistes qui viennent du monde entier, des Japonais, des Américains.
Il faut peut-être...
On ne va pas s'en étonner, si vous voulez, parce que Vichy, enfin, puisqu'il faut l'appeler ainsi, le régime, est un régime autoritaire. Il n'est pas fasciste, mais autoritaire. Et immédiatement répressif. Ce qu'on oublie toujours, c'est inhérent à ce régime. Sachez que 35 000 fonctionnaires vont être évoqués. Sachez que 13 500 personnalités ont été donc faites prisonnières pour des raisons de type politique. 70 000 ont été internés. Donc, vous voyez. C'est quand même, vous voyez, c'est quelque chose, et ça finira par un régime épouvantable, qui est le régime milicien.
Oui.
Voilà, faut pas l'oublier ça. Si vous voulez, tout de suite, ce régime a été immédiatement répressif.
Et c'est un régime qui s'inscrit d'emblée, alors qu'on est dans cette période de total délitement, évidemment, hein, la France occupée, etc. C'est un régime de crise au départ et d'extrême urgence. Et néanmoins, un régime qui s'inscrit d'emblée dans une dimension politique et qui désigne des responsables politiques de la situation.
Ah, c'est ça qui est tout à fait étonnant, d'ailleurs.
Alors, il faut tenir compte aussi que en 40, puisque c'est là où la Cour suprême va être instituée, la France vit un profond traumatisme.
Bien sûr.
Dont on n'a plus idée maintenant. Tous étaient délités, tout était rompu, on était stupéfaits. La meilleure armée du monde qui passait par, comme
pour
telle,
oui.
pour telle en 6 semaines, terminée, si vous voulez. Ça a été un tsunami
politique.
C'est
vrai politique. Que Pétain, d'ailleurs, s'est réclamé à son procès de la Vox Populi qui demandait, qui réclamait les traites à la patrie. Voilà,
vous parliez à l'instant de tous ces journalistes, plus de 120, 130,
150,
150 même,
oui.
147, voilà, journalistes qui étaient présents, en tout cas au début des débats, parce qu'on les a vus
Il y a un délitement là aussi,
aller.
Parce que les...
Mais au début, ils étaient 147.
Contrôlés, quand même, par Vichy.
Il n'y en a quasiment pas qui mettent en cause la légitimité même de ce procès. On a l'impression que les journalistes, plus ou moins expression d'une opinion difficile à établir, bien entendu, estiment qu'il faut réellement punir les responsables de la défaite. Hein. Ça paraît légitime à l'époque, c'est important de le dire quand même.
Tout à fait, mais quelques-uns, notamment James de Coquet, vont changer un petit peu leur opinion et au cours des débats... peut-être grâce à l'argumentation juridique et à l'éloquence des accusés, vont se rendre compte peut-être de la propagande et aussi comprendre ce qu'on a voulu leur cacher.
Et ça se passe en 42.
Alors là,
il y a deux ans d'écart.
Là, il faut aussi ne pas oublier qu'en 40, effectivement, il y a la fureur, il y a l'humiliation de la défaite. 42, donc 2 ans plus tard,
on a eu le temps de réfléchir un peu.
Les choses ont changé parce que les États-Unis et l'URSS sont entrés en guerre. L'armistice est maintenant un peu plus loin dans les esprits. Donc,
Il n'y a aucune amélioration.
Exactement.
Quand Pétain dit le 30 octobre, mais vous verrez, il n'y aura plus de ligne démarcation, les prisonniers reviendront, et puis ça revenait à dire, puis vous mangerez mieux, etc. Oui, oui, d'accord. Et en 42, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ou
néanmoins,
pas grand-chose.
Le vent mauvais a soufflé entre-temps.
Ouais. Néanmoins, à ce moment-là encore, l'idole Pétain n'est pas encore déboulonnée et le procès de Rion va participer, du moins à égratigner un petit peu le maréchal.
Qui est attaqué directement
et courageusement par Blum et Daladier.
On va venir dans un instant à ces débats, à l'éloquence de Blum et de Daladier et à l'importance de ces défenses-là dans toute la suite. En attendant, si vous voulez, on écoute une chanson de Charles Trenet de cette époque.
Ce petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors en nous tout resplendit, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier, espoir. De toi l'on se nourrit, bien mieux que d'un rôti. Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris ce que j'écris. Ce soir tu me séduis, je t'ai choisi. N'est-ce pas toi qui ris ici, si, espoir.
Un extrait sur Europe 1 d'une chanson de Charles Trenet, vous l'avez dit, Franck, une chanson qui s'appelle Espoir.
Ah oui, évidemment, dans une période où cet espoir était particulièrement nécessaire. La justice a été maltraitée dans le procès de Rion, mais la justice a été mise en scène, disons-le. Il y a quelque chose de très théâtral dans toute cette affaire.
Est totalement orchestré par le président Kaous lui-même, qui d'ailleurs est arrivé avec un manteau d'hermine le premier jour des audiences. Un faste qui a coûté...
Il est venu dans sa grande tenue de la Cour de cassation, en fait, alors qu'il présidait une juridiction spéciale qui n'émanait pas du tout, même.
C'est un faste qui a coûté d'ailleurs très cher, puisque plus de 600 000 francs ont été utilisés pour remettre... en dorure, la salle qui était bien sombre et bien humide. Donc, pour ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'indépendance des juges, c'est une question qui est au cœur de Rion et de l'ambiguïté du régime de Vichy, de l'ambiguïté de ce procès. Les juges ont tenté de faire correctement leur travail. L'instruction, qui a d'ailleurs bien incommodé le maréchal, a été très longue.
100 000 pages.
100 000 pages, plus de 600 témoins ont été entendus.
Donc on a l'impression quand même d'un travail très sérieux, quelque part.
Un travail de bénédictin. Ouais. Oui.
Jean Moulin avait déposé pendant l'instruction pour défendre son ancien patron, Pierre Cotte. C'est un des 615 témoins.
Oui, 615 témoins.
Oui.
Qui a d'ailleurs publié son plaidoyer en Amérique en 1944, le procès de la République, et qui a refusé de revenir, contrairement à Guy Lachambre, qui lui est revenu spontanément. Oui.
Alors, ce qu'il faut bien établir, et après on va venir à la défense même des principaux accusés, notamment à l'éloquence de Léon Blum.
Ce que vous avez dit est tout à fait pertinent. Les juges, pour une fois, ne se sont pas couchés.
C'est ça.
Car la majorité des juges dans les procès vichysois se sont couchés. Les sessions spéciales, tout ce qui concernait des juridictions qui avaient été créées. Bon, ils suivaient vraiment ce qu'on leur demandait de faire.
D'ailleurs, là, ils ont refusé. Ils ont fait preuve d'un courage assez exemplaire puisqu'ils ont refusé de juger les accusés pour avoir déclaré la guerre à l'Allemagne, mais les ont inculpés d'impréparation. Donc, la nuance n'est pas moindre et ce qui va coûter la suspension du procès puisque les Allemands...
Suspension est reprise par le maréchal Pétain lui-même, enfin avec cette espèce de commission ad hoc. Donc, reprise des choses en main. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrête pas pour autant l'énorme procédure de Rion. C'était là que j'en étais resté dans le récit.
Il faut ajouter à ce que vous disiez qu'ils ont laissé parler les inculpés sans pratiquement les arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont eu le droit...
Il n'y a eu qu'un seul huis clos.
Voilà.
C'est tout à fait étonnant.
Ce qui est tout à fait remarquable.
Est-ce qu'on peut parler d'un procès politique ?
Oui,
effectivement. C'est un procès politique, bien sûr.
Et pour autant, dans ce procès politique, la parole est relativement libre. Et cette parole, les accusés vont s'en saisir.
Voilà.
Et Daladier comme Blum vont faire preuve d'une éloquence qui, peu à peu, ébranle le public et notamment les journalistes qui se trouvent là.
Ce qui est tout à fait étonnant et maladroit du régime, c'est comment ils ont pu donner la parole à d'anciens tribuns qui étaient connus pour leur éloquence. Donc là-dessus, l'absurdité même de ce procès, c'est un peu la tare originelle du gouvernement de Vichy.
Et alors, est-ce qu'on a des exemples des éléments de défense de Léon Blum, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi s'appuie sa défense ?
Alors là aussi, c'est tout à fait particulier, puisque la défense a été tronquée. Hein. Les avocats n'ont pas pu assister aux interrogatoires des accusés. Les éléments du dossier leur ont été transmis 3 semaines avant que les audiences ne commencent. Le réquisitoire lui-même ne leur a été communiqué que le jour où ils ont appris la condamnation par le maréchal Pétain, donc quelques mois avant que le procès ne commence. Il ne faut pas oublier que les accusés sont déjà condamnés par le maréchal. Donc, en fait, Léon Blum va constituer presque seul sa défense, grâce notamment à son avocat, Maître Spagnin, qui va lui éplucher la presse locale, lui donner quelques éléments. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que Léon Blum est un ancien avocat. Donc, sa précision, l'argumentation très éloquente au procès est certainement due à son expérience de juriste et à son éloquence que l'on connaît. Donc, c'est un peu vraiment seul qu'il va constituer cette défense.
De façon concrète, qu'est-ce que l'on reproche ? On dit impréparation, trahison des devoirs de la charge, mais...
Alors pour Léon Blum, c'est pas tout à fait impréparation. On reproche à Léon Blum les mesures sociales du Front populaire, donc les nationalisations, les congés payés dans leur application brutale. Les 40 heures, évidemment, toujours dans leur application brutale. Et là, c'est tout à fait étonnant.
Mais c'est quand même, je dis ça notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route et qui ne comprendraient pas forcément qu'on parle de ce procès de Rion, qui donc a eu lieu en 41-42. Hein, le procès s'ouvre en 42, oui.
Quelques mois, 3 mois, février à avril.
À avril, oui.
Avril 42. Et dans ce procès de Rion, qui est donc un procès politique sur les responsabilités de la défaite de 1940, c'est la justice qui est amenée à trancher sur des questions strictement politiques comme la question des 40 heures ou des congés payés. C'est quand même, on est dans des... Il faut faire une véritable gymnastique intellectuelle pour comprendre ce qui se passe.
Oui, mais on essayait de faire comprendre pourquoi, dans le fond, les armées avaient été défaites, parce que il y avait impréparation militaire. Et s'il y a impréparation militaire,
c'est parce que
et notamment les 40 heures. Vous voyez, c'est comme les 35 heures, enfin, si j'ose dire. Mais les 40 heures, voilà, c'était la responsable quasiment de tout. Donc Blum a dû se défendre là-dessus.
Et il est devenu presque l'avocat de la classe ouvrière.
L'avocat et des communistes, puisque à ce moment-là, il a dit que il n'avait pas été d'accord avec les communistes durant.
Qu'il l'avait fustigé et qui avait d'ailleurs voulu être témoin à charge lors de son procès. Et pourtant,
il avait écrit une lettre. Hein. Ils avaient écrit une lettre pour charger donc Blum et que il se souvenait du petit Imbeau, c'est-à-dire d'un syndicaliste qui venait d'être fusillé comme otage donc par les nazis. Voilà.
Et donc, il lui rendait grâce à son procès, donc d'un courage quand même exemplaire.
Il profite d'une tribune, disons-le.
Bon. Et d'ailleurs, je pense que, et c'est là où les historiens souvent oublient, et c'est en découvrant ces audiences d'ailleurs aux Archives nationales que je me suis rendu compte de l'ampleur de Léon Blum dans la résistance, puisque non seulement la tribune qui lui est offerte au procès lui permet donc de se faire le défenseur de la République et du programme du Front populaire, mais aussi à l'intérieur de ses prisons, il œuvre à la réunification du Parti socialiste il écrit à l'échelle humaine.
Il prépare
et quelques feuillets d'ailleurs sont publiés sous le manteau dans des revues clandestines. Donc l'importance de Léon Blum et de Daladier d'ailleurs qui
Daladier dans le procès. Il a été beaucoup plus efficace parce que...
Beaucoup plus présent.
Oui, et en même temps...
Il a une prise de parole qui est beaucoup plus conséquente.
Oui, parce que il a, sur les problèmes militaires qu'il connaissait à merveille, il avait une mémoire extraordinaire, à chaque fois il leur a dit, alors on y va, et puis etc. etc. Et là, les journalistes, spectateurs ont été sidérés.
Ébranlés,
parce que les autres étaient incapables de répondre, et il s'est attaqué à l'icône. L'icône en personne, le maréchal. Voilà. Et il a dit, mais oui, qu'est-ce qui, au moment de, en 1934, a dit que, dans le fond, les crédits de la défense nationale pouvaient être un nommé Pétain. Bon, alors à ce moment-là, c'était
Strings-Verboten. Lui-même ancien ministre. Hein,
voilà. Donc, si vous voulez, il a été très offensif. Et si Blum a été très éloquent, si Blum a été certainement pas supérieur, on va pas faire une comparaison, éloquent tout ce qui concerne la défense de la République, etc. Au niveau de celui qui a été le pitbull et qui a, si vous voulez, fait comprendre donc aux responsables de Vichy que le terrain devenait extrêmement dangereux. Et qui a commencé à irriter quand même un monsieur qui s'appelle Hitler.
Alors justement,
c'est Daladier.
Quelles ont été dans ces affaires les réactions de l'occupant allemand et au-delà des autorités nazies? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le procès de Rion, 70 ans après, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1, Franck.
Alors, ce qu'il y a d'ironique dans ce procès de Rion, c'est qu'à force, il va finir par indisposer les Allemands. Le 15 mars 1942, au Palais des Sports de Berlin, Hitler s'en prend nommément au procès de Rion, qui l'exaspère, dit-il, car il tend, je cite Hitler, par des voies détournées à devenir la justification d'une guerre qu'on aurait dû gagner. C'était peut-être ça, c'était assez bien vu de la part d'Hitler, car exactement, en effet, ce que voulaient Pétain et les autorités de Vichy, c'était se dédouaner, c'était justifier la guerre, prouver aux Français qu'avec une autre mentalité, celle de la Révolution nationale en cours, cette guerre, ils l'auraient gagnée. À Vichy, l'écho de l'énervement de Hitler rencontre une lassitude de plus en plus perceptible envers une démarche judiciaire dont tout le monde en secret se dit qu'elle était sans doute bien hâtive et qu'elle a été mal préparée. On n'est plus chez le maréchal à une aberration près. Voilà que, dès le mois d'avril 42, le régime fait donc machine arrière toute sur le dossier de Rion. Darlan et le ministre de la Justice émettent un rapport expliquant noir sur blanc les raisons qui s'opposent à la poursuite du procès. Ce qu'ils veulent obtenir maintenant, c'est une suspension. Et le 14, un décret du maréchal dispose que la Cour suprême de justice complétera son information en recherchant toutes les responsabilités, mais qu'en attendant, le procès est interrompu. En clair, Vichy déclare forfait. C'est le moment où Laval remplace Darlan, Jean-Pierre Azéma en disait un mot tout à l'heure, et où la politique collaborationniste prend un nouveau départ. Et puisque Rion indispose les Allemands, eh bien, excite le procès de la République, de la Gueuse, c'est le surnom que les Maurassiens donnaient à cette République. On renvoie les accusés dans leurs cellules, et bientôt, sous prétexte de les mettre hors de portée d'éventuels raids anglo-américains, les Allemands enverront la plupart en déportation. La Cour suprême sera dissoute en juin 43, au grand soulagement, il faut bien le dire, de ce même même qu'il l'avait créé. Car le paradoxe de cette affaire, c'est que le procès d'Orion aura servi, nous venons de le dire, de tribune aux anciens dirigeants de la Troisième République pour affirmer essentiellement deux choses. D'une part, leur foi inébranlable dans le régime républicain, ce qui, dans les circonstances de l'époque, était, comme le disait Julia Bracher, non seulement très courageux, mais était assez miraculeux. Il n'y avait pas de tribune pour exprimer ce genre d'idée à l'époque. Et puis d'autre part, ça leur a permis d'affirmer leur espoir dans la victoire alliée. Et c'est là qu'il faut souligner, encore une fois, le courage, la verve de ces accusés. Finalement, ce procès aura totalement échappé à ceux qui avaient voulu le mettre en place. Jean-Pierre Azéma, les Allemands n'étaient pas contents du tout de ce procès. Ils trouvaient que c'était du zèle et du zèle mal placé, en quelque sorte.
Oui, ce que Hitler aurait voulu obtenir, c'est qu'il soit patent que c'était la France qui avait voulu cette guerre et non pas le Reich, c'est-à-dire en envahissant la Pologne. Bon, ben, c'est le contraire qui était en train de se produire. Alors, ils ont envoyé à Betz leur ambassadeur qui est venu à Rion, qui a été à Vichy en disant que on ne comprenait pas ce qui se passait, que ça devenait de plus en plus scandaleux et que le Führer lui-même s'étonnait du cours des choses et qu'il y aurait peut-être alors des retombées et des contreparties négatives pour ce qui concernait la collaboration d'État, c'est-à-dire donc des rapports donc entre le Reich, Hitler en l'occurrence, donc, et Philippe Pétain. Bon, alors là, on a compris le danger. Et comme d'habitude, oserais-je dire, dans ces rapports de la collaboration d'État, qui sont des rapports asymétriques, c'est vrai, même si Vichy possède encore sa flotte, l'Empire, etc., Vichy donc est dominé pour différentes raisons par le Reich. Alors, à ce moment-là, après avoir un peu bricolé, dit que ce n'était que donc que suspendu, que on allait continuer donc l'information, qu'on allait continuer donc les enquêtes.
On a noyé le poisson, disons-le.
Voilà. Oui. Bon, on a gagné un petit peu du temps, et puis, comme d'habitude, presque 9 fois sur 10, à ce moment-là, dans ces rapports très compliqués de ce qu'on appelle donc la collaboration d'État, eh bien, Vichy a cédé, et il faut bien le dire là, de manière quand même assez piteuse.
On peut dire a cédé aux Allemands.
A cédé aux Allemands, oui.
La Cour n'est dissoute qu'en juin 43, Julia Bracher, c'est-à-dire bien longtemps après la suspension des débats.
Oui, tout à fait. Alors, les débats ont été suspendus par une loi le 11. C'est le 14 précisément que les accusés et la Cour, les magistrats, n'étaient pas au courant. Et d'ailleurs, ils vont l'apprendre de la bouche des accusés.
On est en avril 42, là.
Là, on est en avril 42. Donc, le 14, les magistrats l'apprennent par une loi donc, qui a suspendu le procès le 11. Et donc, en mars 43, les accusés vont être déportés. 2 mois après, la cour donc est suspendue. Les accusés vont être déportés, l'un au château d'Itter et l'autre près de Dachau, au chalet du Fauconnier, pour Léon Blum. Donc, c'est tout à fait étonnant. Le procès montre bien l'illusion de l'indépendance de Vichy et le retour à une collaboration dure avec le retour de Laval au pouvoir, si tant est qu'on peut trouver une symbolique au procès dans le régime.
C'est donc d'une complexité folle, cette histoire.
C'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu, et qu'aujourd'hui, dans cet ouvrage, on a tenté de donner la parole...
De reprendre point par point, chapitre par chapitre,
exactement,
dans l'ordre, en fait, l'évolution de ce procès.
D'offrir un récit avec les mémoires de Léon Blum, en contrepartie de donner la parole à Daladier, qui, malheureusement, est le Munichois, donc c'est un peu réducteur, et aussi d'offrir le réquisitoire, donc de donner la parole à l'accusation et au procureur, qui a été oublié dans les publications, juste après-guerre, évidemment, des amis de Daladier et de Blum, puisqu'on republie des audiences qui ne l'ont jamais été depuis 1945.
On a l'impression, lorsqu'on évoque ça, comme nous venons de le faire, à grands traits bien entendu, on a l'impression que de bout en bout dans cette histoire, c'est bien le régime du maréchal Pétain, le régime de Vichy, qui a été dépossédé, berné, à qui tout a échappé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu juger les responsables de la Troisième République, ça s'est retourné contre eux. Ils ont voulu faire plaisir aux Allemands, plus ou moins, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté au contraire. Et finalement, ils sont obligés de suspendre les débats, de supprimer la cour. Et les propres décisions qui ont été prises...
Ils se sont ridiculisés.
Ils se sont ridiculisés.
D'ailleurs, la presse collaborationniste du Nord se gausse. C'est tout à fait lamentable.
Le maréchal... Les salauds. On leur donne une tribune.
Je suis partout.
Et ça vise spécifiquement Philippe Pétain, parce que c'est lui qui l'a voulu.
Mais oui.
Il a voulu
Romier, précisément.
Voilà.
Oui.
Et ensuite, ils en ont discuté, ceci, cela. Son plus proche, un de ses plus proches collaborateurs, Lucien Romier, a dit « C'est toujours pédagogique, hein, un procès. Alors, il faut y aller. » À ce moment-là, il y a eu hésitation, puisque une partie des inculpés avait déjà été jugée par une cour de justice. Est-ce qu'il fallait de nouveau recommencer? Ce qui était quand même assez acrobatique d'un point de vue strictement juridique. Pétain l'a voulu. Parce que c'est un monsieur très répressif qui avait des comptes à régler avec ce qu'il appelait le régime ancien et que, par exemple, Mandel, qui lui avait résisté...
dont on aurait
Mandel,
pensé, a priori, qu'il ne serait pas...
Voilà.
C'est les juges qui ont refusé d'instruire, d'ailleurs, Renaud et Mandel. Hein. C'est tout
voilà.
à fait...
Parce que Mandel lui avait résisté en juin 40, il l'a poursuivi de sa hargne, ce qui explique ensuite... pour partie, donc, le destin donc, de Georges Mandel. Ça, c'est Philippe Pétain. Bon. Et dès lors qu'il a été attaqué, et nominalement, bon, une partie de son entourage a dit, bon, écoutez, voilà, maintenant, en plus, il y a Hitler là-dedans, il faut quand même... retraiter
en bon ordre.
On peut
dire que le maréchal Pétain était dépassé par les événements.
Dès la première audience, hein, l'angoisse, on a frémi à l'hôtel du Parc. D'ailleurs, il y a une anecdote que le garde des Sceaux...
On a réalisé ce qui était en train de se passer.
Mais même avant, puisque le garde des Sceaux avait déjà connaissance de la défense.
Il les avait interviewés, oui. Et à chaque fois qu'il les entendait, il se disait... qu'est-ce qui va se passer?
Et le garde des Sceaux, justement...
Que nous réserve la prochaine audience.
Barthélémy discutait un jour, un après-midi, avec le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, inquiet, lui disait « C'est vous qui aviez raison, il fallait arrêter ce procès. » Et Barthélémy lui dit « Il était plus facile de ne pas le commencer que de l'arrêter maintenant. La machine est en marche. »
Est-ce qu'il y a eu des pressions concrètes sur les magistrats qui composaient la fameuse Cour suprême?
Alors, on n'en a pas les preuves matérielles aujourd'hui.
Des coups de téléphone, peut-être, disons.
Les magistrats, après-guerre, évidemment, se sont défendus en disant qu'ils étaient pressurisés de toutes parts. C'est vraiment toute la question de leur indépendance. Néanmoins, même s'ils ont...
Des suggestions.
Très probablement. De même que si Gamelin s'est tué, il a été probablement...
Une crise de mysticisme, de surcroît.
Oui,
oui, donc, c'est... Oui, il voyait un peu Dieu. Et,
mais moi, je pense qu'il s'est tué personnellement rendu, parce que Vichy lui a demandé de se taire, parce qu'il rendait service à Vichy en se taisant, en parlant.
Mais il faut saluer quand même, vous l'avez bien dit, l'indépendance de ces juges, c'est rare. C'est rare dans des régimes autoritaires. C'est rare. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient plus rien à attendre. Hein, ils étaient au sommet.
Oui, c'est ça. On a pris des magistrats beaucoup trop haut placés.
Reste
qu'ils n'ont pas démissionné néanmoins la cour n'a pas été dessaisie et qu'ils...
Il faut saluer ce courage parce qu'il est rare.
Tout à fait ambigu.
Quasiment rarissime, donc, dans cette période.
Et ce qui s'est exprimé pendant ce procès, et notamment les longues défenses de Léon Blum, vont servir, on peut dire, de socle à une sorte de résistance.
Pour le Parti Socialiste, qui va être... ça va être une rénovation, ce qu'on appelle le Comité d'Action Socialiste, le CAS, ça va être un socle, si vous voulez. Mais en même temps, ça passe à Londres. Donc, en même temps, ça passe à l'émission, donc, Les Français parlent français. Ça parle aussi à Honneur et Patrie. Donc, il y a une résonance, y compris au niveau international. Et ça, c'est extrêmement important. C'est presque un cadeau que Vichy va faire à une résistance qui, politiquement, n'est pas encore crédible.
Les réquisitoires, les interrogatoires, le journal de captivité de Daladier, le témoignage de Blum, tout ça figure dans ce très beau document, Rion 1942, le procès, présenté par Julia Bracher. C'est donc aux éditions Omnibus. Et je recommande particulièrement, parce que c'est vrai que c'est pédagogique et très agréable à lire, pas seulement pour les jeunes du reste, de Jean-Pierre Azéma, L'Occupation expliquée à mon petit-fils aux éditions du Seuil. Merci beaucoup de nous avoir un peu donné quelques éléments de réflexion sur un sujet particulièrement glissant, complexe, on l'a compris. Et particulièrement fort également. Je crois qu'on ne parle pas assez de ce procès d'Orion. Bonjour Roland.
Et bonjour Franck Ferrand. Alors un petit test Franck, si je vous dis qu'un nouveau collègue arrive dans le studio, vous pensez que sa présence va apporter un regard neuf, une façon de voir différente, ou vous vous dites que vous allez devoir passer du temps à lui expliquer le fonctionnement du micro et éventuellement à corriger ses erreurs?
Mais ne connaissant pas bien le fonctionnement du micro moi-même, je crains de ne pas lui être d'un
en
très grand
humilité.
Secours.
Alors aujourd'hui on parle justement pour les experts et dans les experts, comment s'adapter quand tout change tout le temps? Vous avez la réponse vous?
Non, pas forcément, mais je vais vous écouter avec intérêt, Roland.
Alors, à tout de suite, on se retrouve avec les experts d'Europe 1.
Merci beaucoup, nous nous retrouvons demain.
Avec plaisir, à demain sur Europe 1, où il est 14h.